France Culture.
Et bienvenue à tous autour de la table ronde d'actualité d'Entendez-vous l'écho qui commence maintenant car il est 14h sur France Culture. En une semaine, la guerre commerciale menée tambour battant par Donald Trump a rebattu les cartes de la mondialisation telle qu'elle s'organisait jusque-là. Tout a basculé le 2 avril, jour de la déclaration d'indépendance économique des États-Unis, le fameux Liberation Day, où 185 pays se sont vus assujettis à des droits de douane supplémentaires correspondant à la moitié des taxes que l'on nous fait payer, a précisé Donald Trump, avec un seuil minimal de 10%. Rares sont ceux à être épargnés, seule la Russie, Cuba et la Corée du Nord y échappent. Au total, les droits de douane auraient dû atteindre 24% en moyenne, soit un protectionnisme assumé et surtout totalement inédit. Seulement voilà, un nouveau coup de tonnerre a retenti il y a deux jours lorsque Donald Trump a annoncé revenir sur cette décision en publiant un décret qui suspend de fait ses surtaxes pour une durée de 90 jours. Ce n'est pas la première fois que la stratégie du coup d'éclat puis de la pause est employée. L'administration Trump en avait déjà fait usage, notamment avec ses voisins du Mexique et du Canada, une stratégie censée lui permettre de tenir la dragée haute lors de négociations qu'il entend tourner bien sûr à l'avantage des États-Unis. Retour à la case départ, donc 10% pour tout le monde, sauf pour la Chine. Et le contraste est d'autant plus saisissant que Donald Trump en a profité pour annoncer des droits de douane à hauteur de 125% pour tous les produits chinois. Ce matin même, la Chine a répliqué. Elle fixe également des droits de douane sur les marchandises américaines importés largement augmentés. L'heure est donc à l'escalade entre les deux géants qui représentent à eux de 43% du PIB mondial. Une guerre commerciale dont les origines ne datent pas d'hier mais qui pourrait coûter cher. Diviser l'économie mondiale en deux blocs pourrait réduire de presque 7% le PIB mondial. Les effets macroéconomiques négatifs ne se limiteront pas aux États-Unis et à la Chine mais s'étendront à d'autres économies, en particulier aux pays les moins avancés, a prévenu avant-hier la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce. Alors qui paiera le prix fort de cette guerre commerciale? Les économies émergentes chez non cruciales des chaînes d'approvisionnement vont-elles faire les frais des revirements quasi permanents de situation? La santé économique des pays passera-t-elle par la négociation et surtout avec qui? Choisir son camp est-il une option ou bien est-ce devenu une nécessité? Pour répondre à toutes ces questions, trois invités sont autour de notre table ronde plus que jamais d'actualité. Sébastien Jean, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie au Conservatoire national des arts et métiers et directeur associé de l'initiative Géoéconomie, Géofinance de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Et vous avez participé à l'élaboration d'une bande dessinée avec la chercheuse Isabelle Bensidoun et l'illustrateur Enzo, intitulée La folle histoire de la mondialisation. Et c'est peu dire que cette histoire est effectivement devenue folle, voilà, parue aux éditions Les Arènes. Amaury Mullier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du bureau Risque Pays à l'AFD, l'Agence française de développement, et également avec nous à distance, Emmanuel Véron. Vous êtes géographe spécialiste de la Chine contemporaine et de l'Asie, chercheur associé à l'IFRAE, l'Institut français de recherche sur l'Asie de l'Est. Bonjour et bienvenue, Emmanuel Véron.
Bonjour. Bonjour.
Et donc, vous soyez donc tous les trois les bienvenus, et vous également, auditrices et auditeurs, dans cette émission qui a été programmée et préparée par Diane Devancet, réalisée par Cassandre Puel et Françoise Le Floch, et mise en onde aujourd'hui par Paul Guigues. Alors, nous l'avons dit, désormais, c'est un face-à-face à couteau tiré entre la Chine et les États-Unis qui s'est mis en place. Chacun y va de sa déclaration entre Donald Trump le 9 avril dernier et Lian Jian, porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois.
Aucun autre président n'aurait fait ce que j'ai fait. Il ne l'aurait jamais fait, mais il fallait le faire. Ce qui se passait en matière commerciale, pas seulement avec la Chine, même si la Chine, ce sont les plus grands truands de l'histoire, mais avec d'autres aussi, quelqu'un devait agir. Quelqu'un devait faire ce que j'ai fait. J'ai prononcé une pause de 90 jours pour les pays qui n'ont pas riposté, car je l'avais dit, si vous ripostez, nous doublerons les droits de douane. Et c'est ce que j'ai fait avec la Chine, car eux, ils ont riposté. Nous allons voir ce qu'il en ressort, mais je crois que tout va bien marcher. Je pense que nous avons à voir une situation que personne n'imaginait envisageable. Et bien sûr, nous pouvons parvenir à des accords. Nous allons même faire un accord avec la Chine. Il y aura des accords qui seront équitables. Moi, je veux l'équité. Ce seront des accords équitables pour tout le monde. Mais avant, ce n'était pas équitable pour les États-Unis. Ils nous truandaient. Nous avons 36 000 milliards de dettes. Il y a une raison à cela. Vous savez, la vraie décision que j'ai prise, c'était le jour de la libération. Nous avons été libérés de tous les accords horribles qui avaient été faits, les accords commerciaux horribles.
Je tiens à souligner une fois de plus que personne ne sort gagnant d'une guerre commerciale ou douanière et le protectionnisme ne mène à rien. La pression, les menaces et le chantage ne sont pas la bonne façon de traiter avec la Chine. La Chine prendra les mesures nécessaires pour sauvegarder ses droits et intérêts légitimes. Si les États-Unis ignorent les intérêts des deux pays et de la communauté internationale et insistent sur une guerre des droits de douane et une guerre commerciale, la Chine les combattra jusqu'au bout.
Sébastien Jean, il faut commencer par comprendre ce qui s'est joué dans ces derniers jours, ces dernières heures même, lorsque Donald Trump a annoncé la suspension pour 90 jours des droits de douane sur une soixantaine de pays, des droits supplémentaires qui avaient pourtant été annoncés en grande pompe une semaine plus tôt. Très concrètement, que s'est-il passé, Sébastien Jean ?
J'ai envie de dire, Jacques Lacan disait, le réel c'est quand on se cogne. Et à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que le monde affabulé, la vérité alternative de Trump, s'est cogné contre la réalité de l'économie et de la finance mercredi dernier, quand on est arrivé au bord d'une crise financière mondiale de première ampleur, créée de toutes pièces par une administration qui, à mon avis, a montré de façon spectaculaire son dogmatisme. D'abord, elle est complètement aveuglée par une idéologie et puis par l'obéissance au chef. Par son amateurisme, parce qu'ils ont été absolus, ce qu'ils ont présenté n'a aucune cohérence. C'est une des raisons profondes pour lesquelles il y a eu une réaction financière aussi brutale. C'est-à-dire que quand tout le monde regarde ça, on se dit mais ça n'a aucun sens. Il est impossible que les États-Unis se réindustrialisent comme ils le prétendent sur cette base. Et puis son affairisme. C'est pas pour rien qu'on a aujourd'hui des discussions autour de manipulation de marché, parce que quand tout le fonctionnement des marchés dépend seulement des caprices du chef, c'est la porte ouverte à toutes les dérives affairistes, et on voit à quel point tout ça est entremêlé. Donc voilà, il est arrivé sabre au clair avec ces grandes histoires qui font très bien en termes de communication, d'espèces de télé-réalité permanente. Il a suffi d'une semaine pour qu'il soit ramené au caractère inopérant et affabulé, finalement, de cette politique.
Alors, vous avez mentionné la panique boursière, cette réalité financière qui est venue rattraper l'administration Trump.
Ce à quoi je faisais allusion, plus spécifiquement, il y a la panique boursière, effectivement.
La manipulation.
Mais je crois que le plus grave et le plus profond, ça a été la déstabilisation du marché de la dette américaine. Parce que ça, c'est vraiment le socle du système financier international. C'est l'actif sans risque sur lequel repose l'ensemble du système financier international. Et donc, ça a été finalement si aberrant, les politiques mises en œuvre, que c'est arrivé à déstabiliser ce marché. Et c'est là, je crois, que tout le monde a pris peur. Pour moi, c'est inavoué, mais c'est une panique ce qui s'est passé mercredi. Et c'est pour ça que, brutalement, il a fait volte-face.
Et que par ailleurs, et on va revenir là-dessus, il y a de forts soupçons, effectivement, de manipulation de ces cours, de délit d'initié aussi au sein de son administration. Amaury Mullier, ce qui est intéressant avec ce que nous raconte Sébastien Jean, c'est que Donald Trump ne dit pas du tout la même chose. Voilà, il faut le dire, vous ne tenez pas le même discours. Pour lui, ce retournement de situation, son attitude très différente qui bascule en une semaine, est liée, et là je le cite, à l'attitude constructive des pays concernés. Plus de 75 auraient ainsi opté pour la négociation plutôt que la riposte. C'est donc le fameux discours officiel de l'administration Trump. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on pourrait se dire que c'est une tactique qui fonctionne dans l'esprit au moins de Donald Trump, frapper un grand coup pour asseoir une forme de domination sur les négociations, et de fait on a vu quand même malgré tout des pays toquer à la porte et tenter de, on va dire, rattraper les pots cassés.
Je pense que la situation, elle est complexe à lire, et que effectivement du coup tous les discours sont permis dans la bouche de Trump. pour rejoindre ce que disait Sébastien, on a même son ancien conseiller John Bolton qui a qualifié la lecture économique qu'il avait d'analphabétisme économique. Hein, donc, je pense que
Elon Musk lui-même s'est élevé contre ses conseillers.
Donc, je pense que la manière dont Trump interprète tout ça, c'est sa vision, et en particulier sur sa manière de dire tout le monde est venu coopérer. Bon, l'Europe avait commencé déjà à parler de sanctions possibles également. Donc, on voit bien que sa lecture, elle est à géométrie variable. Moi, je pense qu'il y a peut-être un point simplement qui est à prendre en compte sur l'origine de tout ça, c'est le constat que Trump a fait, ou qu'en tout cas il a vendu à ses électeurs, qui est le constat de la désindustrialisation américaine, qui est en partie vrai, en tout cas quand on regarde la part relative du secteur industriel américain entre 1990 en gros et aujourd'hui, elle a baissé en valeur relative, même si la croissance a fait qu'au total la production industrielle américaine croît. Et c'est ce problème-là de productivité, de compétitivité que Trump a voulu adresser, et probablement qu'il l'a effectivement adressé de manière simpliste, de la manière la plus simple qu'il était d'expliquer à ses électeurs, en imposant des droits de douane, alors que on a une tribune ce matin dans le Financial Times qui est intéressante de la Fondation Carnegie, qui dit que probablement effectivement les États-Unis doivent résoudre un problème de compétitivité, mais que ce problème de compétitivité passe sans doute plutôt par une problématique de monnaie et d'équilibre de change avec la Chine par cette manière qui est la pire dans ce qui est écrit dans la tribune, qui est les droits de douane. Donc je pense que voilà, il y a à la base de tout ça sans doute une promesse, en tout cas pas complètement dénuée de constat, hein, qu'on peut faire ailleurs en Europe, le constat de l'industrialisation qui recule, qui était sans doute le gros problème que Trump devait gérer.
Et du reste, Emmanuel Macron l'a dit dès le lendemain de ce fameux Liberation Day, il l'a dit devant un panel de représentants de différents secteurs industriels, il a dit le problème identifié, que Donald Trump a bien identifié le problème, c'est juste que la solution est mauvaise. Très, très concrètement, Amaury Mullier, on peut se dire que le protectionnisme n'est pas une solution en soi. À partir du moment où on pourrait se dire que l'Union Européenne aussi a des problèmes d'industrialisation, enfin de réindustrialisation, pour autant, si tout le monde se met à appliquer le protectionnisme, personne ne peut sortir gagnant, c'est ça que vous nous dites?
Oui, oui. En fait, de manière schématique, on pourrait se souvenir de ce que John Connolly, le secrétaire au Trésor de Nixon, avait un jour dit aux Européens, qui était le dollar est notre monnaie, mais c'est votre problème. Aujourd'hui, en caricaturant un peu, on pourrait presque se dire que les Américains disent au monde entier le dollar est votre monnaie, sous-entendu votre monnaie d'épargne, mais c'est notre problème de compétitivité, et que tout ça est un peu effectivement raccourci par le traitement des droits de douane.
Sébastien Jean.
Oui, je crois que c'est une des questions qui se pose aujourd'hui d'une manière brutale. C'est comment est-ce que cette érosion, enfin cette façon d'abîmer la crédibilité des États-Unis et du dollar va impacter le rôle de clé de voûte du système monétaire international que joue le dollar aujourd'hui, parce que le système financier, il est fondé sur la confiance. Et là, c'est vraiment une grave entorse qui va avoir des conséquences. C'est-à-dire que tout le monde, tous les pays tiers se demandent, est-ce que vraiment je veux continuer à dépendre de cette façon des États-Unis et du dollar? Ça fait très longtemps qu'on pose des questions sur l'évolution du rôle du dollar. On sait que tout ça évolue très lentement. Mais là, c'est quand même un choc structurel qui aura sans doute, je dis pas, c'est pas du jour au lendemain, mais ça va avoir des conséquences. Je pense que ça change la donne quand même structurellement, à mon avis.
Et Sébastien, pour bien comprendre cette question du dollar, il faut dire que le dollar perd de sa valeur de jour en jour. Il s'effrite, il devient de moins en moins fort. Depuis un mois, il a perdu plus de 5% par rapport à l'euro, la monnaie unique européenne. Alors très concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe précisément? Pourquoi le dollar s'effrite face à cette guerre commerciale aux décisions de Trump? Et pourquoi est-ce un problème pour l'économie américaine dans un premier temps?
Oui, alors je crois d'abord qu'il faut distinguer le structurel du conjoncturel. C'est-à-dire si le dollar est la monnaie de réserve international, c'est étant donné le poids économique mais aussi politique des États-Unis qui font que quand on a des gros excédents à placer au niveau international, on a confiance dans le fait que le dollar est une bonne réserve de valeur. Et donc, des pays comme la Chine, le Japon, enfin, et en fait, tous les pays du monde qui veulent avoir se protéger contre des crises de balance de paiement, ils considèrent que c'est une bonne façon de le faire. Il y a à la fois la solidité, puis il y a la liquidité du marché en dollars, etc. Ça, c'est structurel, mais c'est éminemment lié à la confiance. C'est pour ça que je dis que ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est une rupture. Après, il y a la question de savoir ce qui s'est passé sur le dollar depuis le début de l'année, en fait. Par contraste, ce qu'il faut souligner, c'est que la première guerre commerciale 2018-2019 contre la Chine, ça s'est traduit par une dépréciation du renminbi par rapport au dollar. Donc une appréciation du dollar. Et habituellement, c'est ce qu'on attend. Quand un pays met en œuvre des politiques protectionnistes, ça induit une appréciation de sa monnaie. Et là, Trump a inventé la protection qui déprécie la monnaie. Pourquoi ça? Parce que, à côté de l'effet habituel, on se protège et donc, en fait, ça a tendance à... il y a pas mal de raisons pour ça. La plus immédiate qu'on attend, là, c'est que ça va créer de l'inflation, donc les taux d'intérêt vont augmenter et donc ça va plutôt attirer des capitaux et renforcer le dollar. Mais là, il y a un deuxième effet, c'est que ça a créé tellement d'incertitudes que ça a cassé les perspectives de croissance des États-Unis et en immobilisant l'investissement, la demande, et ça a eu un effet très négatif sur le dollar. Donc, le dollar, effectivement, perd de sa valeur en moyenne face à la moyenne des monnaies de ses partenaires, particulièrement par rapport à l'euro, avec quand même une chose à mentionner, c'est que le renminbi, la monnaie chinoise, perd encore plus de valeur. Elle se déprécie par rapport au dollar. Donc, voilà, c'est un jeu un peu complexe.
Un jeu qui est voulu par Donald Trump. Donald Trump il a parfois assumé
Oui, évidemment, parce que comme son administration veut tout à la fois, ça fait partie des choses qu'ils veulent. Donc, ce qui est très connu, c'est que son principal conseiller économique, Stéphane Miran, le chef des conseillers économiques, a notamment publié ce qu'il appelle sa doctrine Miran, où il dit, en fait, il faut trouver une façon de faire un accord de Mar-a-Lago qui serait l'équivalent de l'accord il y a 40 ans, l'accord du Louvre, pour organiser l'accord du Plaza, pardon, pour organiser la baisse de la valeur du dollar. Et donc, à la fois, il dit qu'il faudrait que le dollar reste central. Il faudrait que sa valeur baisse. Mais finalement, ce qu'on a fait en 2018, c'était très bien. La Chine a payé parce que leur monnaie s'est dépréciée. Donc, finalement, il faudrait aussi que le dollar reste fort. Donc, moi, je dis, quand on regarde l'ensemble et qu'on regarde sérieusement, on dit tout ça n'est pas sérieux et n'est pas cohérent. Et je crois que c'est le diagnostic qu'ont fait massivement les observateurs. Et là encore, ça fait partie de la réaction des marchés financiers. C'est-à-dire que ça ne tient pas la route. Ils disent tout à la fois, mais en pratique, dans les discours, c'est possible. En pratique, le dollar, il peut pas monter et baisser à la fois.
Et de fait, trop de paradoxes. C'est, vous l'avez dit, Sébastien Jean, de la confiance qui s'effrite, notamment vis-à-vis des investisseurs qui, on le voit bien de façon très rationnelle, n'ont plus tellement envie d'aller sur le sol américain.
Et exceptionnellement, c'est vraiment à noter ce qui s'est passé aux États-Unis ces derniers jours, c'est qu'on avait à la fois une baisse de la bourse, des obligations, de tous les titres en fait sur le libellé en dollars, enfin aussi aux États-Unis.
Ce qui envoie quand même de très sérieux signaux. Emmanuel Véran, si on veut avoir un panorama complet depuis de la nouvelle donne, depuis mercredi, il faut bien sûr signaler le fait que la Chine, elle, a bel et bien décidé de riposter. On disait que peut-être que la stratégie de Donald Trump était une façon d'amener de nombreux pays à négocier. La Chine n'est absolument pas entrée dans ce jeu-là. Bien au contraire, la pause ne vaut certainement pas pour elle. Et de fait, elle a annoncé ce matin qu'elle allait elle-même mettre en place des droits de douane additionnels par rapport à ceux qu'elle avait déjà annoncés sur les biens américains et qui entreront en vigueur à partir de demain. Clairement, du côté du gouvernement chinois, c'est la stratégie de l'escalade qui a été choisie. Est-ce une surprise en soi? Est-ce qu'il y avait un monde où Donald Trump imaginait que la Chine rentrerait dans cette spirale des négociations?
Effectivement, c'est le choix côté Pékin, et notamment de Xi Jinping et de 4, 5, 6 personnes qui l'entourent pour les sujets économiques, commerciaux et financiers, le choix d'une escalade proportionnée. Et assez rapide d'ailleurs, on l'aura noté, tout de suite après les déclarations successives de Trump depuis le début de la semaine. Ce qui montre quoi? Ce qui montre effectivement qu'en plus de la tonitruance, de l'agressivité parfois de Trump et de la volatilité des marchés, ce qui a été très bien rappelé à l'instant, c'est le sujet structurel et de fond de la rivalité sino-américaine. Et qu'en fait, l'un comme l'autre, aussi bien côté Washington que côté Pékin, il est impossible de baisser la garde. Il est impossible de laisser l'autre une initiative trop longue. Et donc, on va vers une logique de proportion en fonction du contexte et des choix de chacune des équipes, pour avoir un face-à-face sino-américain qui devrait avoir une sorte de structuration des relations internationales. Et Pékin, dans ce cadre-là, si riposte il y a, eh bien, c'est aussi un message de la part de Xi Jinping envoyé à l'Europe, envoyé au Japon, envoyé à la Corée du Sud, envoyé une partie de l'Asie du Sud-Est, mais également d'autres économies consolidées et avancées, pour dire... Regardez, on est capable de faire face à l'administration américaine, de faire face à la puissance américaine, et d'ailleurs en fait de reprendre le récit de la logique de puissance et de liberté du commerce et des règles internationales du commerce. C'est un renversement absolu, si je puis dire, du récit par rapport aux pratiques chinoises, notamment depuis son entrée à l'OMC en en 2001. Et ça, Trump le sait parfaitement bien. C'est pour ça qu'il a un vocabulaire qui est assez agressif, parfois un peu grossier. C'est fondamentalement cette rivalité systémique sino-américaine sur tous les domaines, et que d'ici 5 à 10 ans, notamment dans les technologies, notamment sur les sujets militaires, le sujet économique est présent partout et on a face à face, si vous voulez, ces deux géants qui souhaitent donner une grammaire des relations internationales.
Et du reste, c'est ce qu'a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, hier. Elle a dit « Beaucoup parmi vous dans les médias avaient échoué à voir ce que le président Trump est en train de faire. Vous avez essayé de dire que le reste du monde se rapprocherait de la Chine, alors qu'en fait, on voit l'effet inverse. Le monde entier appelle les États-Unis et non la Chine, car ils ont besoin de nos marchés, ils ont besoin de nos consommateurs. » Et ils ont besoin que ce président dans le bureau ovale leur parle. Là, très clairement, Emmanuel Véron, on peut voir aussi dans cette surenchère de taxes, cette course aussi à l'échalote de droits de douane, on va dire, une façon aussi pour Donald Trump de demander à tout le monde de faire un choix, de se positionner dans un camp ou un autre. C'est aussi ça le but de la manœuvre.
Exactement. C'est effectivement cette nouvelle grammaire des relations internationales. C'est « vous êtes avec nous ou contre nous ». Ce qui était vrai sur les sujets commerciaux, financiers, monétaires, elle est aussi vraie pour des sujets militaires et technologiques. Et dans les faits, ça peut paraître paradoxal, mais le sujet de l'économie chinoise n'est pas complètement consolidé. Il y a eu beaucoup à la fois de mensonges et de contradictions, même d'ambiguïté sur la réalité de consommation intérieure du marché chinois, de problématiques de réciprocité, de problématiques de subventions publiques, notamment à l'export, etc. Et que finalement, les marchés consolidés mondiaux résident en Asie du Nord-Est, c'est le Japon, la Corée du Sud, c'est l'Union européenne, bien évidemment, et le marché nord-américain. Alors, ça peut paraître contradictoire par rapport aux déclarations fortes et agressives de Donald Trump, mais la réalité commerciale du monde est bien là, en plus de transactions mondiales et d'un commerce mondial qui s'effectue encore massivement, très massivement en dollars, et certainement pas en yuan, y compris dans ses déclinaisons numériques et autres applications aux transferts internationaux, même si ce sujet-là augmente, et on en reparlera probablement plus tard, notamment à travers un certain nombre de pays émergents et en développement, en Asie ou au travers des BRICS avec la Russie, voire le Moyen-Orient ou le Brésil.
Et effectivement, on va voir que ce repositionnement touche en tout premier lieu les pays qui sont très géographiquement, ne serait-ce que cela, proches de la Chine. Amaury Mullier, on l'a dit, il y a eu une première bataille commerciale entre États-Unis et Chine à partir de 2018. En fait, ce recentrage qui semble retentir comme un coup de tonnerre, mais ce recentrage du duel avec ces deux géants qui, je l'ai dit, représentent 43% du PIB mondial, c'est pas tellement une surprise en soi, et c'est à peu près certain qu'on allait se retrouver avec les deux face à face et qui allait rentrer dans la surenchère.
Oui, on s'y attendait, étant donné les propos que Trump tenait pendant sa campagne. Ce qui a été surprenant, c'est plus les victimes collatérales de cette annonce et auxquelles on s'attendait moins. Et pour compléter ce point sur la Chine, je pense qu'effectivement, on est sans doute à un tournant, notamment du point de vue donc du rôle du dollar et le rôle du renminbi dans l'économie mondiale. Donc aujourd'hui, si le dollar reste prééminent, malgré par exemple le fait que les États-Unis s'en servent aussi comme un outil de sanctions et un outil d'extraterritorialité, c'est que le renminbi, à l'inverse, lui, ne connaît pas la liberté du compte de capital. Hein. Donc la Chine impose des contrôles de capitaux sur les mouvements de sa devise, ce que ne font pas les États-Unis. Et donc les États-Unis sont de facto aujourd'hui le grand marché du monde. Quand vous voulez épargner, si vous voulez acheter de l'immobilier ou des bons du trésor ou des actions, ben, l'endroit où il y en a le plus, ce sont les États-Unis. Ils avaient une liberté totale pour les acheter et les vendre, ce qui n'est pas le cas de la Chine. Et probablement qu'effectivement, tout ça, pour que le renminbi puisse éventuellement se développer, la Chine se trouve sans doute à un tournant de décision de savoir si elle veut d'une manière ou d'une autre aller dans le sens d'une libéralisation de son compte de capital. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'elle a montré. Et c'est d'ailleurs ce qui pose sans doute problème à l'administration Trump, c'est que s'il y avait une liberté du compte de capital, la fluctuation de sa devise permettrait de réguler une partie, en tout cas, sans doute, du déficit commercial.
Sébastien Jean, je vous vois hocher la tête.
Oui, c'est vrai. Soit dit en passant, je pense que la volonté de contrôle l'emporte et que de toute façon, on n'est pas à la veille d'une libéralisation du compte de capital en Chine. Ce qui est compliqué également, c'est que les déséquilibres, ils proviennent des déséquilibres internes de l'économie chinoise, dans laquelle il y a une distribution de la richesse qui est au détriment des consommateurs et une distribution de l'activité qui est au détriment de la consommation finale. Si bien que il y a une épargne nette de la nation chinoise qui est très élevée, et c'est ça qui explique les déséquilibres massifs. Et je pense pas que des fluctuations de la monnaie régleraient ça, même à court terme. D'ailleurs, en ce moment, le taux de change de la monnaie chinoise, il est géré, et on voit bien que le marché pousse vers le bas, et la Banque centrale de Chine freine la descente parce qu'elle veut contrôler, voilà. Donc, il y a un système, d'ailleurs pas très compliqué, mais enfin, qui montre bien qu'elle freine, elle accélère pas, là, donc elle limite la dépréciation du renminbi. C'est beaucoup plus, je pense, lié à des problèmes de coordination macroéconomique, d'économie déséquilibrée. Les Américains n'épargnent pas assez par rapport à ce qu'ils investissent. Les Chinois épargnent trop, évidemment.
Enfin, ne consomment pas assez
par rapport à ce qu'ils produisent. Donc voilà. Et nous, pour compléter le tableau, nous, Européens, on n'investit pas assez, en fait.
Je renvoie les auditeurs, les auditrices à une émission que nous avons consacrée justement à cet homo economicus que devrait être le consommateur chinois pour comprendre cette panne de la consommation interne qui aurait pu permettre aussi à la Chine de changer de modèle ou en tout cas de s'adapter notamment à ces circonstances bien particulières. Emmanuel Véron, vous souhaitiez réagir ?
Oui, effectivement, en complément, le sujet de la situation économique interne montre que le marché n'est pas consolidé, contrairement à ce qu'on évoquait sur l'Union européenne ou de l'Amérique du Nord. Mais c'est également côté Trump, et c'est l'un des leviers derrière le simple sujet des tarifs et des barrières douanières qu'il cherche à activer, de la contraction de l'économie chinoise, qui est fortement endettée, dette locale, dette privée, problématique de vieillissement et donc démographique, problématique dans l'immobilier. Et il cherche à contenir, ou en tout cas à contrarier, voire à neutraliser des capacités d'innovation et industrielle chinoise à travers ces différentes mesures barrières. Donc le sujet, en fait, porte à la fois sur des dimensions économiques et les fragilités, les caractéristiques propres du marché chinois ou de l'économie chinoise et des leviers potentiels activables, si je puis dire, américains. Donc le sujet, on voit bien, est complètement systémique et complètement imbriqué à une volonté politique de réduire l'espace stratégique, qu'il soit commercial, économique ou technologique, de la puissance chinoise et d'ailleurs réciproquement.
Amaury Mullier, on l'a dit, hein, la Chine a intégré les rangs de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, en 2001. Je vous propose d'écouter justement un extrait d'un reportage qui avait été mené à ce moment-là pour comprendre ce que la Chine espérait et comment elle espérait aussi mettre son économie en forme. Une archive qui est particulièrement importante dans le sens où la Chine a aussi déposé plainte auprès de l'OMC dans le cadre de cette guerre commerciale qui l'oppose à l'administration de Donald Trump.
Une poignée de main historique. Pascal Lamy, le commissaire européen au commerce, et le ministre du commerce extérieur chinois viennent de signer un accord qui fera date. C'était le dernier obstacle important à l'entrée de Pékin à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce.
Je souhaiterais faire une déclaration solennelle. Dès que la Chine deviendra membre de l'OMC, elle respectera scrupuleusement les règles et les engagements de l'Organisation mondiale du commerce.
L'accord est dans l'intérêt de la Chine, mais également dans l'intérêt de l'Union européenne. Et il devrait renforcer les relations sino-européennes.
L'accord signé aujourd'hui prévoit une ouverture du marché chinois aux entreprises européennes. Ainsi, dès aujourd'hui, 25% du marché des télécoms mobiles. À terme, le marché leur sera ouvert à 49%. Autre engagement, plus que 8 à 10% de droits de douane sur 150 produits européens, tels que les vins et les produits de beauté.
Voilà, un reportage de France 3 daté du 19 mai 2000, donc juste avant cette officialisation de l'entrée de la Chine au sein de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Amaury Mullier, quelles étaient les attentes de la Chine à ce moment-là? Et puis encore une fois, on est en 2001, aujourd'hui nous sommes en 2025. Quel bilan peut-on tirer pour la Chine de cette inscription finalement dans les règles, dans les normes du commerce mondial tel qu'il s'organisait jusqu'à très récemment?
Alors la Chine a effectivement été une grande gagnante de cette entrée dans l'Organisation mondiale du commerce et elle en a tiré beaucoup de bénéfices. Juste pour revenir sur le constat que faisait Sébastien Jean et avec lequel pour le coup je suis tout à fait en accord. Effectivement le déséquilibre actuel entre les États-Unis et la Chine provient du fait que la demande domestique en Chine est faible et elle est faible parce que les salaires sont restés faibles et que dans le fond c'est une forme de subvention cachée faite aux exportateurs chinois. Enfin, en tout cas, c'est un mécanisme qui contribue à rendre les produits chinois plus compétitifs. Donc, là-dessus, je pense qu'effectivement, hein, quand j'ai souligné le sujet du compte de capital, c'était simplement pour évoquer le fait que les sujets sont plus complexes que les droits de douane et sans doute que la convergence ou en tout cas la non-confrontation des systèmes américains et chinois passe sans doute plutôt par des discussions plus complexes sur des paramètres tels que la consommation domestique chinoise, le rôle de l'État chinois vis-à-vis de sa population et de ses filets sociaux, et éventuellement la fluctuation de sa monnaie, puisqu'effectivement elle est aujourd'hui complètement régulée et l'administration chinoise la contrôle. Mais voilà, c'était pour sortir du débat simpliste de la lutte contre les droits de douane. Probablement qu'aujourd'hui la non-confrontation passerait par une discussion sur des paramètres un peu plus complexes.
Et éviter donc cette escalade de surenchère.
Et pourrait permettre d'en sortir, puisque je pense qu'avec des droits de douane à ces niveaux-là, enfin, de toute façon, on est quasiment plus capable de les modéliser, hein, on se disait, aucune des deux économies ne peut éviter de graves conséquences avec ce niveau-là. Donc je ne sais même pas si ça sera possible de les tenir. Voilà.
Sébastien Jean, je le disais, la Chine a déposé plainte auprès de l'OMC. Bien avant elle, le Canada l'avait également fait. Très concrètement, quand la Chine dépose plainte auprès de l'OMC, qu'est-ce qu'elle en attend? Qu'est-ce qu'il est possible d'envisager? On parlait de discussions très techniques qui pourraient mettre fin à cette surenchère un peu bête et méchante, on va dire, en termes de droits de douane. Est-ce que l'OMC est aussi une façon de s'en sortir par le haut?
L'OMC n'est pas taillée pour gérer un conflit comme celui d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle est le dépositaire et le lieu d'application d'accords internationaux, d'engagements que les pays ont pris les uns envers les autres. Ce sont tous des États souverains s'ils choisissent de plus respecter leurs engagements. Et c'est le cas clairement des États-Unis aujourd'hui. L'OMC ne peut rien. Là où elle pourrait garder son importance, à mon sens, c'est si... à l'avenir, si à un moment on a un accord politique d'ampleur suffisante, parce que quand on a un accord politique, on cherche comment est-ce qu'on peut l'appliquer, et là il faut un socle institutionnel. Et c'est à ça que peut servir l'OMC, c'est un endroit où on peut institutionnaliser la discussion entre la communauté des États souverains. Et ça, c'est très difficile à faire. C'est très difficile de se mettre d'accord sur un ensemble de règles pour permettre à la pression des pairs entre États souverains de s'exercer d'une manière organisée et efficace. Donc, l'OMC le permettrait. Voilà. L'accord, ce qu'on a appelé le Phase One Deal, l'accord de phase 1 entre les États-Unis et la Chine du 15 janvier 2020, c'est un exemple, un contre-exemple, je devrais dire plutôt. C'est-à-dire que comme ils font un accord juste entre deux pays, s'il y a un désaccord sur des différences sur leur application, il y a aucune possibilité d'invoquer une procédure crédible en fait d'arbitrage, parce que ce sont deux États souverains et forcément ils vont se retrouver front contre front et il y aura pas le tiers un peu impartial qui pourrait aider à résoudre le différend. Et ce tiers, dans un cadre comme celui de l'OMC, c'est la communauté des pairs des États souverains. Voilà, c'est le seul qu'on puisse invoquer et c'est pas pour rien si ce sont les deux grands leaders du commerce mondial qui aujourd'hui posent le plus de problèmes, parce que ce sont ceux qui sont le moins sensibles justement à la pression des pairs.
Qui peuvent se permettre effectivement, on va dire, de prendre la tangente quand l'envie leur prend ou la nécessité fait loi pour eux. Ce qui était intéressant aussi dans cette archive, dans ce reportage daté de l'an 2000, Emmanuel Véron, c'est qu'on entend aussi un lien, alors c'est parce que c'est un reportage de France 3 fait en France, donc il y a un lien très fort avec les possibilités que ça offre entre l'Union européenne qui est en train de se construire aussi à ce moment-là et la Chine. Or ce matin, Xi Jinping a déclaré à l'occasion d'une rencontre avec le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez que la Chine et l'Union européenne doivent assumer leurs responsabilités internationales, protéger conjointement la mondialisation économique et l'environnement commercial international et résister ensemble à toute coercition unilatérale. Très clairement, là, c'est un appel du pied à une forme d'union entre Union européenne et Chine. On a beaucoup parlé de cette opposition entre Chine et États-Unis, mais est-ce que cela veut pour autant dire qu'un rapprochement entre ces deux grands pôles, malgré tout, même si l'Union européenne pèse bien moins, est envisageable? Est-ce qu'on pourrait se laisser séduire face à la menace américaine par une forme d'union, si ce n'est commerciale, au moins diplomatique avec la Chine?
C'est en tout cas effectivement la volonté de la Chine et peut-être de certaines équipes au pouvoir actuellement dans certains pays membres de l'Union. Rétrospectivement, la séquence que vous avez passée sur l'adhésion et l'anticipation de l'adhésion à l'OMC montre bien que la Chine a toujours perçu l'Europe, l'Union européenne et notamment son marché consolidé, unifié comme étant stratégiquement porteur pour la Chine à des fins commerciales, à des fins d'export et ce qui va faire marcher son usine industrielle massive à grande échelle, parce que ce sont un marché de consommateurs, parce que l'Europe est un marché de consommateurs, et qui est capable d'absorber les surplus ou les surcapacités commerciales chinoises, comme on le voit aujourd'hui avec les voitures électriques, les panneaux photovoltaïques, l'éolien ou les batteries en tout genre. Donc, l'Europe a toujours, en fait, et rétrospectivement, c'est vrai, été perçue comme étant stratégiquement utile à la Chine, comme levier commercial pour dégager ses surcapacités, mais également comme levier politique, stratégique, face à la puissance américaine pour, comme on le disait précédemment, réduire l'espace stratégique américain. Et donc, utiliser l'Europe, utiliser ses États membres, ses capacités d'absorption économique, de consommation, c'est son énergie, différents sujets industriels comme la pharmaceutique, etc., etc., voire l'aéronautique peut-être demain ou l'agroalimentaire, est un sujet fondamental pour Pékin aujourd'hui, alors même qu'on a cette tension accrue entre le pôle américain et le pôle chinois. Et c'est bien pour cela que Xi Jinping cherche à retrouver du lien avec ses relais qu'il a soigneusement cultivé ces 10 dernières années, et les équipes précédentes à Xi Jinping également, notamment en Espagne, quid de l'Italie, quid de la Grèce, quid du Portugal à une échelle plus mineure, quid de l'Allemagne, bien évidemment, malgré l'arrivée au pouvoir d'un nouveau chancelier qui semble-t-il changerait la donne. Donc il y a fondamentalement cette volonté de reprendre pied avec l'Union européenne, pôle par pôle, pays par pays, pour l'utiliser comme levier contre les capacités américaines, ce qui montre bien que la Chine, fondamentalement, n'a pas le niveau de puissance espéré et connaît en interne des fragilités très très importantes, on l'a évoqué, notamment économiques ou démographiques, qui à 10 ans, 15 ans, sont là à rebours, un levier pour la puissance américaine pour continuer de maintenir son leadership à une échelle globale.
Emmanuel Véron, vous avez parlé dans votre réponse d'une menace qui a été clairement identifiée comme telle, notamment par les autorités européennes, c'est celui de voir de fait les marchés chinois se tourner vers les marchés européens pour écouler leurs marchandises. Il faut rappeler que sur les 85 milliards d'euros de marchandises d'habillement et de chaussures, notamment importées dans l'Union européenne, 63 millions d'euros proviennent d'usines situées dans des pays asiatiques. On a beaucoup parlé de la Chine, mais il n'y a pas que la Chine, en fait, dans cette histoire. Le Bangladesh, qui lui aussi a eu très peur avant cette annonce très récente de Donald Trump d'être surtaxé. Il devait être taxé à hauteur de 37%, le Vietnam à hauteur de 46%, le Cambodge à hauteur de 49%. Clairement, ce sont des pays qui produisent, et notamment des marchandises textiles, ce sont des pays qui pourraient voir l'Europe comme une opportunité en termes de marché. Il n'y a vraiment pas que la Chine, il faut le souligner, Emmanuel Véron.
Absolument, absolument. Et ce qui montre bien le visage de la mondialisation et notamment de ces sujets industriels et le textile notamment, qui a muté, si je puis dire, notamment au lendemain de la crise des subprimes 2007, 2008, 2009, voire 2010, où la Chine a massivement fait délocaliser en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud. L'exemple du Bangladesh que vous citez, mais on pourrait parler des relais textiles en Thaïlande, notamment au Vietnam ou en Indonésie. Et ce qui montre bien que là, même si c'est le Bangladesh, même si c'est la Thaïlande, derrière, il y a finalement la puissance commerciale, économique, voire industrielle chinoise, puisque la Chine a veillé sur justement ces 10 ou 15 dernières années à constituer une sorte d'arrière-cour commerciale, voire industrielle renforcée, en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud. Et on le voit en 2020-2021 avec la signature du nouveau schéma de libre-échange en Asie, le fameux RCEP, hein, alors excusez l'anglicisme, Regional Comprehensive Economic Partnership, qui est une zone de libre-échange certes imparfaite, avec un certain nombre de trous dans la raquette, mais qui est dominée par la Chine. Et la Chine, dans son dessein asiatique stratégique, a toujours cherché à recentrer l'Asie sur elle-même, et c'est notamment vrai en cultivant ses périphéries, que sont le Vietnam, la Thaïlande, voire aujourd'hui le Bangladesh ou l'Indonésie, également des Philippines, dans des logiques commerciales et industrielles. Et donc, le sujet concernant l'Europe, si on revient à l'Europe et l'industrie du textile ou d'autres secteurs industriels, a toujours, à un moment ou à un autre, en toile de fond, des capacités de levier chinoise.
Sébastien Jean, vous souhaitiez réagir, et puis il faut quand même souligner quelque chose. On parle certes d'une domination de la Chine sur cette arrière-cour, pour reprendre les termes d'Emmanuel Véron. Il faut tout de même mentionner que ce sont des pays qui, pour le coup, sont allés voir l'administration Trump pour tenter de négocier. Il n'y a pas non plus une féodalisation, on va dire, de ces pays-là, à une, ne serait-ce qu'une diplomatie chinoise. Ils ont tenté aussi de sauver ce qu'ils pouvaient sauver vis-à-vis de leur industrie.
Il y a même souvent beaucoup de défiance. Il y a plutôt une multiplication, d'ailleurs, des procédures de défense commerciale pour se protéger de l'impact souvent problématique localement de la concurrence chinoise. Ce qui se joue, je crois, dans ces discussions, en grande partie, c'est le risque de contagion. C'est-à-dire que les États-Unis se lancent dans une politique protectionniste. C'est un fait aujourd'hui, mais les États-Unis, c'est 13% des importations. Est-ce qu'on se maintient dans cette situation où on a juste les États-Unis qui se mettent à l'écart, finalement, et qui se referment? C'est une possibilité. Enfin, c'est une possibilité, c'est déjà une perspective même qui se dessine. Mais est-ce que il y a une contagion qui va au-delà de ça? Le mécanisme, on le voit très clairement apparaître, c'est-à-dire que beaucoup de producteurs, d'exportateurs se voient fermer le débouché américain. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils ont leurs produits sur les bras, ils ont leur capacité de production, ils cherchent à vendre ailleurs. Qu'est-ce qu'ils font pour vendre ailleurs? Ils baissent leurs prix. Donc, ce qui se profile, c'est une crise industrielle mondiale avec une pression forte à la baisse des prix. Et quand on est européen, en particulier, on se dit, mais nous, on veut pas être le déversoir des produits chinois et asiatiques, ce qui est, vous avez tout à fait raison de le souligner, il n'y a pas que la Chine, qui ne trouverait pas de débouché aux États-Unis. On a déjà une industrie qui est dans une mauvaise passe, qui souffre de la crise notamment des prix de l'énergie en Europe, et donc qui est fragilisée. Donc, de deux choses l'une, soit, et je crois que c'est l'objet des discussions aujourd'hui, soit on fait rien, on laisse cette logique se mettre en place, et ça aboutit à des conflits commerciaux, parce qu'il va y avoir un afflux d'importations en Europe, et on va nous-mêmes multiplier les instruments de défense commerciale, anti-dumping, il y a des régulations anti-subventions, mesures de sauvegarde éventuellement, ou anti-subventions. Donc en fait, ça c'est la contagion. C'est-à-dire que nous-mêmes, Européens, on va être obligés de se protéger massivement des importations provenant de Chine. Soit on discute avant. Et de façon très révélatrice, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, a appelé le Premier ministre chinois qui a dit non, mais il n'y a pas de risque parce qu'en fait, on va massivement relancer la demande interne chinoise. Et là, on est au cœur du problème parce que en fait, le relance de la demande intérieure chinoise, le rééquilibrage de la demande de l'économie chinoise, on en parle depuis 20 ans.
Ça fait longtemps,
On en parle depuis 20 ans et elle ne s'est pas réalisée, en tout cas à une vitesse qui est outrageusement insuffisante, qui plus est avec des hauts et des bas, et on a vu notamment que la réponse au Covid, en fait, elle a beaucoup reposé sur l'extérieur. Donc voilà, on est dans cette question, est-ce qu'on va arriver à contenir la contagion et comment on fait? Et on essaie de tout le monde, je crois, est conscient qu'il faudrait l'éviter, mais c'est pas si facile.
Donald Trump, le 2 avril 2025.
Vietnam. Le Vietnam, des bons négociateurs, des gens super. Ils m'aiment bien, je les aime bien. Le problème, c'est qu'ils nous taxent à 90%. Donc en retour, on va les taxer de 46%.
Tran Nhut Tong, président de Tan Tong Textile Garment, à TV5 Monde, le 3 avril 2025.
Avec ce chiffre de 46%, je suis sûr que beaucoup de gens sont sonnés. En ce qui concerne les exportations vers les États-Unis, en particulier dans l'industrie textile, nous n'avions pas prévu des droits de douane aussi élevés. Nous allons nous concentrer sur les marchés européens et des pays tels que l'Australie et le Canada. Ce sont les nouveaux marchés que nous pouvons explorer pour compenser ce manque.
Vous êtes bien à l'écoute de France Culture. La mondialisation, selon Donald Trump, qui paiera le prix et a fortiori fort de la guerre commerciale? C'est la question que nous posons dans cette table ronde d'actualité. Amaury Mullier, je rappelle que vous êtes responsable du bureau Risque Pays à l'AFD, l'agence française de développement. Tout ce qu'on vient de dire sur la Chine, cette idée qu'il n'y a pas eu un changement de modèle radical depuis 20 ans parce que la relance de cette consommation intérieure n'est pas possible, concerne de fait la Chine. On l'imagine aussi les pays producteurs qui sont très proches géographiquement, mais si on regarde uniquement ces pays-là, et là on entendait l'exemple du Vietnam, qui sont allés voir l'administration Trump pour tenter de négocier des tarifs douaniers bien inférieurs, est-ce qu'eux-mêmes ont leur propre problème, on va dire, de demande intérieure? Est-ce qu'eux-mêmes pourraient essayer de changer de modèle, ou est-ce qu'ils sont trop petits pour cela finalement?
Alors c'est des pays qui ont aussi des consommations domestiques souvent assez faibles, en tout cas comparées aux standards de pays plus développés. En revanche, c'est pas un problème du fait de leur taille beaucoup plus petite à l'échelle mondiale, et donc en tant que tel, ils ont de toute façon pas une capacité d'absorption qui changerait la donne au niveau mondial. Voilà, mais effectivement, je pense que sur la région asiatique autre que Chine, il faut souligner que l'ensemble des pays asiatiques hors Chine représentent quand même un tiers du déficit commercial américain, là où la Chine en représente 25% et l'Union européenne une vingtaine. Donc effectivement, les États-Unis ont aussi le sentiment d'avoir des comptes à régler. Et le discours là de Trump qu'on entendait est éloquent à ce sujet. Bon, le droit de douane de 90% ou les sanctions, enfin ce qu'il appelle les droits imposés par le Vietnam à hauteur de 90%, on a vu, hein, le calcul n'était pas du tout des calculs de droit de douane, mais simplement de déséquilibre de balance commerciale. Effectivement, le Vietnam fait partie des pays dont le PIB est le plus exposé au marché américain. C'est de l'ordre de 25%, c'est-à-dire pas seulement de leurs exportations, c'est 25% de leur richesse nationale qui dépend des exportations vers les États-Unis. Donc c'est des pays qui sont massivement dépendants aujourd'hui du marché.
Et ça, c'est lié à quoi? Une surspécialisation dans certains secteurs, par exemple le textile?
Alors, surspécialisation, bon, une compétitivité coût qui est très bonne, et puis des infrastructures qui, ces dernières années, se sont développées et ont permis une assez bonne réactivité des outils industriels de ces pays-là.
Est-ce qu'on peut parler pour autant d'une dépendance véritablement de ces pays-là aux États-Unis? Est-ce qu'il y a des pays fondamentalement dépendants des États-Unis, Amaury Mullier?
Alors, en Asie, oui, le Cambodge est un petit peu dans la même figure, avec une part de son PIB qui est probablement de l'ordre de 30% de son PIB qui se construit autour d'exportations aux États-Unis. Ces deux pays-là en Asie sont relativement à part, même le Bangladesh et le Sri Lanka dont vous parliez ont des dépendances fortes, mais moins fortes. Et puis après, il y a le cas, on n'a pas encore parlé d'Amérique latine, mais il y a le cas du Mexique, qui est un cas un peu similaire, où là, c'est une grosse majorité, c'est de l'ordre de 80% des exportations, et de l'ordre, pareil, on estime 20 à 25% de son PIB, je crois, qui dépend des exportations vers les États-Unis.
En fait, ce qui est intéressant dans tous les cas que vous venez de citer, c'est que ce sont des pays qui se sont configurés aussi en fonction des règles du jeu qui prévalaient jusqu'ici, qui ont marché, on va dire, avec la mondialisation telle qu'elle s'organisait. Le Mexique a mis en place notamment tout un système de zones franches pour permettre justement ces exportations vers les États-Unis. Aujourd'hui, la donne change, mais en fait, c'est là où on comprend que c'est un véritable retournement de situation. Sébastien Jean, le Vietnam, par exemple, avait doublé son excédent commercial vis-à-vis des États-Unis entre 2017 et 2024. On pourrait se dire qu'il avait été gagnant aussi quelque part de la guerre entre la Chine et les États-Unis. Aujourd'hui, il n'est même plus ça. Cette guerre-là, ça risque d'être compliqué de sortir gagnant de cette confrontation-là.
Un gros point d'interrogation. En effet, sachant que je suis tout à fait d'accord, considérer que le Vietnam a probablement été même le grand gagnant de la guerre commerciale initiée par la première administration Trump vis-à-vis de la Chine, parce que souvent ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, en essayant de découpler leur relation avec la Chine, ils l'ont pas vraiment découplé, ils l'ont compliqué et ça a contourné. Et donc finalement, il y a des pays tiers comme le Vietnam, on peut parler du Mexique aussi, Taïwan, Corée, qui ont beaucoup plus vendu aux États-Unis, mais en fait souvent, dans le même temps, ils ont beaucoup plus acheté à la Chine, c'est-à-dire ils achetaient des pièces, des composants, des produits intermédiaires, et puis les finaliser, et puis les vendre aux États-Unis. Maintenant, le point d'interrogation, il me semble même mis sur ce qui est le cœur du modèle de développement par les exportations, qui a été dont le Japon finalement a été l'initiateur, le précurseur, et qui a été suivi après par ces différents vagues ou vols d'oies sauvages, pour reprendre une image qui était utilisée dans la littérature économique, qui faisait du secteur exportateur le fer de lance du développement. Pour une raison, pour être très simple, qui est que ça permet d'enclencher un cercle vertueux d'accumulation où on a une industrie, on fait en sorte de la rendre profitable sur les marchés mondiaux, et si c'est le cas, à ce moment-là, elle accumule des excédents, elle permet d'accumuler du capital, d'accumuler du savoir-faire, et elle peut s'étendre presque sans limite parce que c'est un marché mondial. Et donc, on arrive à mettre en place, en tout cas, c'est le défi, mais c'est ce que sont arrivés à faire beaucoup de pays asiatiques, à mettre en place un cercle vertueux. Et vraiment, le fait de donner la préférence au secteur exportateur, notamment industriel, c'est au cœur de ce modèle. C'est pour ça que c'est pas un hasard si ces pays, en fait, la plupart, ils vont plutôt comprimer la demande parce que c'est pas leur priorité. Et leur priorité, c'est de développer leur industrie, développer leur secteur exportateur, accumuler des recettes, du capital, pouvoir réinvestir. Et c'est compliqué, hein. Il s'agit pas de dire que c'est un modèle qu'on peut facilement appliquer, mais il a connu du succès au Japon d'abord, dans ce qu'on a appelé les dragons asiatiques, puis ensuite les tigres, et puis la Chine de différentes façons, et la Chine d'ailleurs a été très originale, notamment dans ce qu'elle était communiste initialement, et aussi dans le fait qu'elle s'est beaucoup appuyée, elle, en plus, sur l'investissement direct à l'étranger, ce qui est une deuxième point d'interrogation. Oui. Est-ce que les multinationales, notamment américaines, vont pouvoir continuer à opérer comme elles le font, enfin européennes d'ailleurs aussi, dans une certaine mesure en Chine notamment.
Et puis est-ce qu'il va y avoir un report de ces investissements, on l'a dit, par les investisseurs échaudés par l'instabilité aux États-Unis qui se reporterait soit sur l'Union européenne, bon, on peut y croire, peut-être sur la Chine. Est-ce que Sébastien Jean peut envisager ce mouvement-là?
Alors je pense qu'il faut, quand on essaie de répondre à cette question, il faut vraiment distinguer ce qui est logique financière de la logique industrielle. Logique financière, on l'a dit tout à l'heure, il y a un problème de confiance qui fait se poser des questions, ça va pas évoluer, c'est plutôt structurel, mais je pense que ça va plutôt renforcer l'attractivité de la place des places financières européennes, en fait. Parce que les États-Unis sapent un peu leur crédibilité, ils ont toujours leurs atouts énormes, ils restent la première, c'est une évidence, hein, il s'agit pas de dire que ça va s'évanouir comme ça du jour au lendemain. La Chine a les limitations qui ont été très justement soulignées de contrôle sur sa convertibilité. Donc finalement, l'euro, deuxième monnaie au monde, est la seule à avoir la crédibilité là-dessus. On a vu d'ailleurs, c'est intéressant, le franc suisse aussi, beaucoup monté ces jours-ci, parce que ça apparaît comme un refuge. Mais ça, c'est la logique financière. Ensuite, il y a la logique industrielle. Ce que voudrait Trump, c'est réindustrialiser. Mais il s'y prend d'une façon qui est aberrante, c'est-à-dire il crée une incertitude majeure et il sape les profits des industriels. C'est pas comme ça qu'ils vont investir aux États-Unis, sachant qu'il faut 10, 15, 20, voire 25 ans pour rentabiliser l'investissement. Donc là, la question est tout autre et je crois qu'on est dans une temporalité là. Enfin, c'est pas des décisions. Justement, pour l'instant, tout le monde attend. Oui. Il y a trop d'incertitudes. On attend que la poussière retombe un peu pour y voir clair. On peut pas faire des investissements industriels dans un tel vacarme, dans une telle opacité.
Emmanuel Véron, vous souhaitiez réagir?
Oui, dans la continuité des sujets latino-américains, en fait, du passage de l'Asie du Sud-Est à des pays latino-américains, il y a un gain en fait de complémentarité des économies chinoises et des pays latino-américains, notamment sur le plan industriel. C'est notamment vrai au Mexique et sur le plan de certain nombre d'infrastructures, en plus, bien évidemment, d'un des moteurs qui est celui de la captation et la sanctuarisation de ressources premières, de ressources minérales et d'autres matières premières. Et ça, précisément, la grille de lecture Trump, probablement, au-delà du sujet des barrières douanières et du sujet des tarifs, en fait, cherche à reprendre pied, alors de manière extrêmement brutale et tonitruante, en Amérique latine vis-à-vis de ses partenaires historiques et de reconstituer sa fameuse arrière-cour, comme on parlait tout à l'heure d'arrière-cour géographique, commerciale, industrielle chinoise en Asie du Sud-Est. Et bien là, l'Amérique latine avec l'Amérique latine, et c'est notamment l'un des sujets pour le Groenland dans la partie plus au nord. Quand on regarde brièvement la montée en puissance de l'imbrication commerciale et économique entre la Chine et le Mexique sur les 10 dernières années, ou sur le même sujet avec le Brésil, le Pérou, ou même la Colombie ou l'Argentine, eh bien on est sur premier ou deuxième partenaire commercial systématiquement pour les différents pays latino-américains mentionnés. C'est vrai pour la fourniture de services, comme ça l'était depuis une grosse dizaine d'années avec un certain nombre de pays africains. Bref, simplement le sujet pour rappeler que ces dynamiques en cours, qui ont été installées et travaillées de manière assez stratégique et dans le fond par les autorités chinoises, largement subventionnées, largement suivies de réflexion stratégique par ces autorités publiques, hein, ministère des Affaires étrangères chinois, ministère du Commerce, ministère des Finances et ces grands opérateurs bancaires, en fait, aujourd'hui, met face les États-Unis à un mur qu'ils avaient sous-estimé jusqu'alors, y compris administration Obama ou administration Biden ou même Trump 1. Bref, dans l'arrière-cour géographique américaine, il y a un défi immédiat sur des sujets technologiques, sur des sujets de marché, sur des sujets d'influence à tous les niveaux.
Amaury Mullier, on comprend qu'il y a une reconfiguration, alors qui ne date pas forcément des annonces de Donald Trump ou même de la date de son investiture le 20 janvier dernier. Il y a, et ça fait longtemps qu'on en parlait, notamment ici à France Culture, cette idée d'une Chine qui tenterait de s'accaparer aussi ces fameuses arrière-cours dont on parle depuis le début de l'émission. Est-ce que c'est un mouvement qui risque de s'accélérer, de voir effectivement des investissements, et notamment chinois, dans certains pays africains, on parlait de l'Amérique du Sud, mais et que face à cette menace de l'administration Trump, les pays concernés, souvent pris à la gorge par des tarifs douaniers excessifs, acceptent de encore plus bon cœur, on va dire, ces investissements-là venus de Chine?
Oui, on peut imaginer, d'autant qu'on a parlé des tarifs douaniers aujourd'hui, mais il y a aussi les financements américains qui sont en retrait notoire ou qui vont l'être. Et donc, effectivement, comme de même que la Chine a quand même pris pied ces 10-15 dernières années en Amérique latine, et pour effectivement des sujets de matières premières, mais également sur des chaînes de produits manufacturés, les idées chinois ont beaucoup augmenté en Amérique latine. C'est probablement toute place laissée par les États-Unis. Alors là, les États-Unis ne laissent pas vraiment la place, parce que on l'a vu sur Panama, et au contraire, ils essayent plutôt de récupérer quelques actifs, mais cet isolationnisme, si on peut appeler ça comme ça, effectivement risque de plutôt laisser la porte ouverte à des investissements chinois, et on peut imaginer qu'ailleurs dans le monde, la logique soit un petit peu la même. Voilà, le point qu'il faut peut-être souligner, c'est que là on assiste potentiellement à une montée aux extrêmes qui sera quand même dans l'ensemble coûteuse pour tout le monde, et il y a un des impacts notamment pour les pays en émergent et en développement qu'on n'a pas mentionné, qui est l'impact sur le coût des matières premières, qui, si on allait vers une récession mondiale, vont beaucoup baisser, et on le sait, ces cours de matières premières impactent énormément le revenu et le PIB d'un certain nombre de pays émergents en développement. Et donc, en plus de l'instabilité des marchés financiers, avec la hausse des taux américains qui va, des taux longs américains, des taux de la dette américaine, qui vont se répercuter sur les taux longs des pays émergents, en fait, on a quand même un cocktail relativement nocif si cette montée aux extrêmes se poursuivait, de volatilité financière, d'atonie de la croissance. Voilà. Et avec, oui, des chaînes de valeur qui probablement quand même se reconfigureraient à la faveur du retrait américain.
Et Sébastien Jean, c'est une réelle menace pour des pays qui, encore une fois, ne peuvent pas changer de modèle du jour au lendemain, et de modèle de fabrication et de production tout simplement. Ceux qui sont plus dépendants des exportations de matières premières vont nécessairement être beaucoup plus impactés que ceux qui ont une économie, on va dire, plus tournée vers la seconde étape, qui serait celle des produits manufacturés.
Oui, je crois que, au fond, c'est une gestion irresponsable d'affaires qui ont une envergure mondiale. Alors, ça peut être préjudiciable pour tout le monde, mais il est bien clair que les États-Unis ou les pays avancés ont beaucoup plus de moyens de faire face qu'un certain nombre de pays en développement, qui en plus sont encore sous le stress de finances publiques, souvent de la crise du Covid, hein, qui n'est pas complètement absorbée, qui sont très dépendants de marchés de matières premières, qui réagissent assez vivement à ce qui se passe, qui risquent, comme ça vient d'être bien dit, d'être déstabilisés, d'être poussés à la baisse. Donc, et puis de chaînes de valeur, de déstabilisation de chaînes industrielles. Ce qui est un peu désarmant, c'est que Donald Trump se targue de vouloir réindustrialiser les États-Unis, et il fait comme si tout ça pouvait se régler en 3 mois ou 8 mois, alors que la temporalité n'est pas celle-là. Donc là, pour ces pays, déjà que pour beaucoup d'entre eux, la situation est difficile, mais en termes industriels, ceux qui ont fait un certain nombre de choix, ils risquent pour certains d'entre eux de se retrouver déstabilisés. Il peut se dégager des opportunités pour d'autres, c'est possible, mais globalement, c'est quand même un facteur de risque, y compris sur le plan financier. Ces taux d'intérêt qui montent, c'est mauvais pour les pays les plus endettés, et il y a un risque dans l'immédiat de crise financière, et dans beaucoup de cas de problèmes en fait industriels, un peu de problèmes structurels.
Il y a un risque de crise financière. Emmanuel Véron, je crois que vous vouliez réagir. Et puis moi, j'aurais une autre question juste après votre réaction. Dans quelle mesure il y a aussi un risque de mise en tension diplomatique? On voyait le président taïwanais a déclaré vendredi que Taïwan faisait partie du premier groupe pour les négociations tarifaires avec les États-Unis. C'est toute une recomposition régionale, mais aussi une forme de tension qui passe par la recomposition économique qui pourrait advenir, Emmanuel Véron.
Oui, absolument. Et en fait, en complément au premier point de ce qui vient d'être dit sur la potentielle crise, les problématiques de hausse des prix, notamment sur les matières premières, je crois que ce qui est intéressant d'observer, c'est la capacité chinoise, d'ailleurs ils y travaillent depuis au moins une grosse décennie, tout comme les Américains dans une certaine mesure, à sanctuariser en fait des stocks de matières premières à tous les niveaux, que ce soit des grains, des céréales, du gaz, du pétrole ou des minerais, tous azimuts. Et là, on voit la relation qu'il y a avec la Russie, qui est d'ailleurs sous sanction et de manière accrue depuis la guerre en Ukraine 2022, où il y a cette articulation d'État entre États. On pourrait parler du pétrole et du gaz avec l'Iran et d'un certain nombre de géoéconomies avec lesquelles la Chine travaille énormément. Il a considérablement renforcé ses liens ces 3, 4, 5 dernières années qui visent spécifiquement à anticiper cette crise avec les Américains. Ce qui nous amène au sujet de Taïwan que vous nous suggérez. La question, en fait, est finalement non pas d'un abandon des garanties de sécurité à ce stade, mais d'un renforcement des liens stratégico-militaires en Asie sur la base de règles tarifaires et douanières imposées et qui ne sont pas définitives par l'équipe Trump aux États-Unis.
Amaury Mullier, on le comprend, certains font des stocks et visent la stratégie d'État à État. C'est ce que nous disait Emmanuel Véron. Et c'est vrai que tout le monde n'est pas égal face à la façon dont on peut réagir. Des plans de soutien ont été mis en place un peu partout à travers le monde, en Espagne, en Corée du Sud notamment, au Nigeria également. Et là, c'est vraiment une question de monnaie. Très clairement, les inégalités, elles vont s'exprimer aussi à travers cela, à travers qui aura les moyens de mettre en place des plans de soutien et qui ne les aura pas.
Oui, effectivement, c'est les pays émergents et en développement ont généralement des marges de manœuvre budgétaires qui sont bien moindres et donc tout chèque exogène qui s'impose est beaucoup plus nocif. Moi, peut-être pour conclure sur une note d'espoir, c'est enfin en tout cas à l'Agence française de développement, on a foi dans le dialogue et le multilatéralisme. Et là, voilà, je pense que Trump aujourd'hui, il en est à un stade où il a fait l'unanimité contre lui. Peut-être que néanmoins, les ponts ne sont pas complètement coupés avec l'Europe et que il faut espérer que entre la Chine et l'Europe qui décide de se parler et les États-Unis et l'Europe qui ont une longue tradition de dialogue, on puisse, sur certains sujets, malgré tout, redescendre des extrêmes dans lesquels on est aujourd'hui. Enfin, en tout cas, si on ne veut pas conclure sur
une note trop catastrophique et trop sombre. Merci pour cette note d'espoir et merci à tous les trois, à Amaury Mullier, Emmanuel Véron et Sébastien Jean d'avoir participé à cette émission.